Et t'as vu le monde ? Impossible quasiment de trouver une place pour s'asseoir, les deux au fond, les ont fait piquer notre table.
Ouais, c'est quand même fou, et puis quand tu regardes, ils ont tous l'air d'être différents les uns des autres, plein d'espèces différentes, ils prennent de la place, quoi.
Ouais, c'est quoi cette toge ? Mais ça, je suis sûr que ça, c'est des espèces de deux carrioles, là. De toute façon, Triscard en avait parlé avant-hier, il disait qu'il allait peut-être avoir du monde, c'est les deux grandes carrioles qui sont là, ça c'est clair, j'ai l'impression de voir... Hein. Un défilé pour l'office du tourisme de la Côte des Épées.
Ouais, en tout cas, j'espère qu'ils nous ont gardé notre place. Hein. Allez, vous, allez. Là, chou.
Voilà, c'est ça. Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne, bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Bien, nous espérons que vous allez bien, nous espérons aussi que... Où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, où vous nous écoutez, vous faites bien attention à ce qu'il y a autour de vous. Et pour ce troisième épisode, bah, on avait parlé la semaine dernière de Baldur's Gate et on a décidé, parce que comme on dit, hein, dès qu'on voit un sujet, on prend. On a décidé de vous parler des cités dans Donjons et Dragons, les villes dans Donjons et Dragons. Alors... on va pas vous faire par le menu, ça sera pour plus tard, on fera peut-être des deux émissions sur une émission avec deux villes ou des choses comme ça, mais on va vous parler des villes dans cet univers, avec des villes qui sont très connues, bien entendu. Allez, petit test, Fabrice, si je te dis Sigil, c'est quoi ? Ou Sigil ?
Sigil, c'est la cité de Planescape, quelque chose comme ça.
Tout à fait, Ouzouz.
Oula,
celui-là il est chaud.
Je sais pas, le setting que t'aimes bien là.
Oui, voilà, Al-Kadim, qui avait fait l'office d'une boîte. Et si je te dis le City State of the Invincible Lord.
Est-ce que c'est du Marvel ?
Ça y fait penser, mais ça n'en est pas du tout. C'est la première ville. Qui est sorti, donc c'était Judge Guild qui faisait ça, et ça a été la première ville pour Donjons et Dragons. C'est-à-dire que c'était pas un supplément officiel, mais c'était un supplément, enfin, c'était pas un supplément dans l'univers de Donjons et Dragons. De toute façon, on est en 76, hein, là, ça fait deux ans que ça y est, mais c'est un supplément qui va avoir l'autorisation d'exploitation pour Donjons et Dragons. Et c'est comme ça que cette ville, alors je suis allé voir les plans, la ville est assez ramassée, ça a été la première ville de Donjons et Dragons, et effectivement, il faut le reconnaître, bon, maintenant elle fait plutôt partie des villes qui sont au musée. Et sinon toi, quelles seraient les villes auxquelles tu penses là, comme ça, dans l'univers de Donjons ?
Il y a toujours les grands trois, hein, c'est-à-dire Neverwinter, Baldur's Gate... Mm-hmm. Et Waterdeep.
Voilà, Waterdeep.
Toujours à ceux-là. Surtout qu'elles ont les différentes déclinaisons en jeux vidéo, forcément. Hein,
bah, alors,
ça a aidé.
On va. Enfin, sauf une, parce que Waterdeep n'a. Alors, je sais pas s'il y a eu des déclinaisons vidéo de Waterdeep, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, il y en a eu beaucoup, beaucoup moins, s'il y en a eu, des deux autres. Parce que Neverwinter et Baldur's Gate, là, c'est clair. On a eu tu as la grande ville de Sharn dans Eberron, qui est une ville tout en hauteur. Tu vas te retrouver également avec Barovia, c'est petit, hein, mais dans l'univers de Ravenloft, t'as Greyhawk. Et ce qui est intéressant, on l'avait vu la semaine dernière, c'est que la plupart des villes effectivement de la Côte des Épées, ou des villes, les trois grandes qui sont connues, c'est des villes qui sont vraiment très très anciennes dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que Ed Greenwood en avait déjà parlé dans certaines nouvelles, et puis après, évidemment, il a commencé à tout étoffer.
Après, est-ce que ça viendrait pas aussi du fait que les royaumes oubliés se limitent à la Côte des Épées à l'heure actuelle ?
Oui, c'est de cette cinquième édition, elle est très clairement sur une limitation de on est restreint effectivement à la Côte des Épées. C'est même s'il y avait une carte, un grand format qui était paru, il n'y avait pas que la Côte des Épées. Mais c'est tu prends par exemple, alors ce que j'ai découvert, je faisais une petite recherche sur Neverwinter, donc Pas d'hiver. Tiens, d'ailleurs, tu sais pourquoi il s'appelle Pas d'hiver ?
Oui, parce qu'il n'y a jamais d'hiver à cause d'un volcan qui réchauffe climatiquement la région.
Oui, c'est ça. Je crois qu'après, ils ont justifié que c'était les élémenteurs de feu qu'il y avait en dessous. Parce que quand tu regardes la carte, t'as Neverwinter, donc Pas d'hiver. J'avais adoré cette traduction. Puis plus en haut, t'as une ville qui s'appelle Luskan, que moi, j'avais utilisé comme point de départ de Maze of the Blue Medusa, parce que je voulais une ville qui soit un petit peu sans foi ni loi et tout ça, donc c'est une grosse ville de pirates. Puis tu sais, tu lis, ouais, il fait super froid, il est super froid. Et bien, à un moment, tu comprends, pourquoi Neverwinter est si connu pour son climat agréable et tout ça. Et effectivement, c'est parce que sous le volcan, il y a quelque chose. Et puis, donc, tu as donc Neverwinter, tu descends, t'as Waterdeep, et puis tu descends encore plus. Et tu vas avoir Baldur's Gate, qui était traduit en 5 heures par la porte de Baldur. Et là, on se rend compte que c'est des villes côtières, que c'est des villes qui viennent dessus. Et surtout, une des choses que je trouve, et on a eu un petit débat hors antenne, c'est que la ville, c'est quand même un aspect qui est très particulier de Donjons et Dragons. Parce que quand tu dis Donjons et Dragons, tu penses plutôt effectivement à ce que tu vas explorer, à ce que tu vas trouver. Tu penses peut-être aller dans les hautes montagnes, dans les jungles du Schult ou des choses comme ça. Mais évoluer en ville, c'est quand même différent. Là, tu peux pas faire ce qu'on appelle le murder hobo. Tu peux pas arriver et massacrer tout le monde dans l'auberge, parce que t'as quand même du monde qui va venir t'embêter. Et surtout, je trouve qu'on a en tant que personnage, tu as des relations moins verticales avec les PNJ, parce que dans Donjons et Dragons, le personnage de base, il est quand même supérieur aux PNJ. Là, bah, faut quand même faire un petit peu attention, parce que ce que tu vas faire va peut-être avoir des conséquences.
Exactement, c'est que tu as vraiment un autre ressenti de jouer une fois que tu poses un pied dans une ville, une vraie ville, hein, on parle pas du petit village de campagne avec même pas un garde nommé. C'est que tu as vraiment un pouvoir qui change sur ce que tes joueurs vont pouvoir faire, ou seront autorisés à faire, entre guillemets. Hein. Après, bon, on leur dit toujours, les conséquences sont là quand vous faites telle action. Il n'y a rien de plus vrai qu'en ville, parce que en général, ils sont dans un village, dans un coin paumé, dans la campagne, ils font, bon, on massacre tout le monde, ou ils font n'importe quoi, hein, bon, on les connaît. C'est qu'il y a, bon, ils vont être là, la répercussion de leurs actions va pas être très très vite, ou en tout cas, faudra beaucoup avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, à moins que t'aies le MJ vraiment qui pousse dans cette direction-là. Si tu veux garder un côté un peu réaliste, on va dire ça, dans ton univers et ta façon de jouer. Mais en ville, c'est compliqué. Et puis aussi, la définition que va avoir le roleplay va tout à fait changer une fois que tu arrives justement en ville.
Exactement, parce que soudainement, l'interprétation et l'interaction vont être très très importantes. Et tu peux pas régler ça avec tout simplement des GD. En plus, en ville, si t'as la bagarre de taverne, on sait à quel point Donjons & Dragons est fort pour régler les règles de combat à main nue. Donc c'est une raison pour éviter ce genre de choses, mais tu as tellement de restrictions qui te tombent dessus, faut faire très attention. Et je trouve que ça amène un pan qui est complètement différent par rapport à des aventures de grand air. Et aussi je trouve que, donc c'est là où on en discutait un petit peu en antenne, à haut niveau tu auras plutôt tendance à être assis dans un coin dans ton palais, à faire venir des gens, à discuter avec eux, à les faire repartir, et puis il te ramène une chose, tu vas plus te balader en ville en fait. Les héros sont fatigués quand ils sont en ville. Et ce que je trouve aussi assez drôle, c'est qu'à chaque fois, alors je crois que j'en avais parlé dans les villes, ou animer une ville, ou je sais plus quoi, d'un conseil OMJ, c'est que très souvent, dans les villes, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'autres groupes d'aventuriers que les joueurs. C'est toutes les descriptions, on dit pas ils sont connus pour être un groupe d'aventuriers, non, il y a que les joueurs qui sont des aventuriers, et tout le monde semble être ultra sédentaire.
Ouais, c'est étrange ce que tu dis, parce que moi je joue pas du tout comme ça, vu que je fais beaucoup de homebrew. C'est que justement les aventuriers sont un groupe parmi tant d'autres. Souvent il y a, dans quasi toutes les grosses villes que je fais ou j'implémente, une guilde d'aventuriers. pense qu'on fera un épisode là-dessus, pour aller plus loin. Mais ils sont une partie d'un écosystème. Et ils se rendent bien compte qu'il y a des groupes concurrents. Je pense qu'il y avait une aventure officielle qui avait fait ça aussi, où il y avait plusieurs groupes qui étaient éventuellement en compétition.
Oui. Déjà, dans le Waterdeep, il y avait ça par le biais de l'appartenance à différentes guildes. Donc c'était l'occasion de faire d'autres groupes. Mais ce que je veux dire, je me demande si pour l'autre groupe, je me demande si c'est pas le supplément, justement.
Critical Role.
C'était celui-là, ce supplément-là. Et alors, soit on a tous les deux de tout bon, soit on a tous les deux tout faux. Mais ce que j'ai trouvé. Tu n'as pas ça dans les descriptions de scénario. Sinon, vois, c'est bon après.
Oui, en même temps, c'est un peu l'idée de vous êtes les seuls à pouvoir résoudre la situation. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Tu vois, c'est...
Oui, c'est ça. C'est... Soudainement, les gens ne ressuscitent plus. Il n'y a que vous. Parce que l'ancien groupe qui était ultra fort, on l'a envoyé, il a été massacré. Donc maintenant, c'est à vous et vous êtes que niveau 1. Vous êtes sûr ? Vous n'êtes plus que nous ? Voilà. C'est l'entrée de Tomb of Annihilation. Mais. Tu as tout cet écosystème, donc, et on a aussi cette espèce d'écosystème qui est renforcé par les livres. Alors, je pense notamment à Waterdeep, parce que Waterdeep, il y a eu énormément de romans dessus. Et puis, évidemment, tu as les jeux vidéo, et c'est pour ça que tu peux pas faire n'importe quoi, parce que t'as envie de dire qu'il y a un système de sauvegarde quasiment immédiat de ta ville, et que ça sera toi qui disparaîtra, ça sera pas la ville qui va disparaître.
Et. Aussi quelque chose d'important sur les villes comme ça, c'est en général l'endroit où tu vas trouver les PNJ, les puissants, les gens légendaires. Et même si tu es très très haut niveau, t'es niveau 20, tu n'es pas au niveau de quelqu'un qui a été choisi par Mistra. Donc il y a plusieurs personnages dans Héros des Hommes Oubliés qui ont vraiment des pouvoirs qui sont passés où,
on dit qu'un
normalement
on précise pour ceux qui ne écoutent pas, Mistra c'est une déesse fort
voilà déesse de la magie d'ailleurs et donc qui donne des pouvoirs à certains individus pour qu'ils assurent leur mission, et ces gens là vont beaucoup plus haut que le niveau maximum autorisé entre guillemets aux joueurs, et que même si tu arrives tu es là oui je suis full stuff, je suis niveau maximum, bah il y a des gens vont mieux pas faire chier de trop.
et c'est là effectivement on a les plus forts, et puis ce qui est intéressant à voir c'est que il y a je mets Waterdeep de côté, je parle du Waterdeep 5e édition là, le voile du dragon. Mais finalement on n'a pas tant de scénarios que ça qui sont dans des villes, c'est à dire que les villes elles ont eu droit, alors Waterdeep a eu droit à sa boîte, même a eu droit à plusieurs boîtes, Waterdeep a eu une boîte qui s'appelait City System, et cette boîte c'était que des plans de Waterdeep, mais c'était écrit City System, t'avais pas alors tu dis ah chouette un truc générique pour faire des histoires, et non c'est que Waterdeep. Et tu avais même des pions à découper, enfin des cartes, enfin tu découpais des pions, c'était des petites maquettes que tu avais juste à plier, que tu posais, et ça faisait des extraits, enfin ça faisait ta ville. Alors fallait pas qu'il y ait du vent parce que tout tombait. Neverwinter par exemple est connu, mais ouais, Neverwinter va vraiment avoir un supplément dédié en 4e édition.
Oui.
Seulement. Et puis on a vu la semaine dernière Baldur's Gate, il y a eu c'était surtout axé sur le jeu vidéo. Donc là, c'est vrai que la vraie star c'est quand même Waterdeep. Et après donc tu auras dans différents sur les différentes gammes qui existaient des cités qui vont être développées, parce que là aussi tu le disais, il y a beaucoup de PNJ, c'est les plus puissants, et c'est vrai que ton PNJ puissant il est rarement tout seul dans une cabane là-dessus, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement on a un univers qui est très très vaste, et contrairement à Tolkien où il y a très peu de villes, là il y a des villes, et c'est dans les villes que tu vas trouver ces personnages puissants, mais qui seront encore une fois décrits dans des suppléments, on va pas mettre en scène des grandes campagnes qui vont te mettre, alors, sauf évidemment celle de la 5e, et qui vont te mettre une telle ou telle ville bien en avant.
Et même aussi, maintenant on a plus tendance à développer des petites villes sur le côté parce que au final ça te permet de créer des choses qui n'ont pas déjà été inventées et qui vont pas faire en sorte de tout changer par rapport à ce qui a déjà été écrit. Donc c'est pour ça que tu te retrouves éventuellement avec des endroits qu'on n'a pas encore explorés, mais qui sont toujours proches de ces régions, étant donné qu'on s'éloigne pas trop, on veut pas trop s'éloigner, oui. Hein, toujours. Hein. C'est pour ça que les villes, c'est intéressant,
Et puis c'est des sources d'intrigues. Enfin, ce qui est super, moi, je trouve, dans les villes, c'est pour ça que j'adore, de toute façon, dans quels que soient les jeux, les villes, c'est que finalement, si c'est un cadre que tu aimes, tu peux y jouer pendant des années et des années et des années. Mm-hmm. Et. C'est ce que disait Pfaffer dès le souricier gris, on revient toujours à l'Ankhmar, mais c'est-à-dire que tu peux la quitter, la ville, tu peux aller faire d'autres choses ailleurs, puis après tu peux revenir.
Oui.
Tandis que tu vas pas quitter la campagne, puis revenir après. Là, il y a une vraie profusion, il y a beaucoup de choses à jouer, mais énormément à jouer, et que ce soit donc, dans les PNJ, puis le tout ce que va amener toutes ces grandes, grandes interactions, les différents quartiers des différentes villes. Alors évidemment, on va retrouver souvent les mêmes quartiers, hein, le quartier des docks, le haut quartier, le quartier un peu misérable, le quartier commerçant, bon voilà, on les aura tous. Hein. Mais il y a une... tu vois, Baldur's Gate, on a vu un petit peu l'évolution, mais il y a des villes qui ont des touches, vraiment, et... moi, il y en a une dont je voudrais te parler. C'est paradoxalement une des villes qui n'était pas dans Donjons et Dragons. C'est la ville de l'Ankhmar, qui a été créée par Fritz Lieber dans le cycle des épées, Pfaffer et le souricier gris, et qui est connue, enfin qui est reconnue pour être la ville qui va marquer, qui va être le maître étalon de toutes les autres villes qui vont être déclinées en fantasy. Et c'est à tel point donc que ce cycle des épées, qui est un cycle extraordinaire, enfin j'en ai parlé très très régulièrement, il est mentionné bien sûr par Gygax dans les fameux appendices où il va dire donc ses inspirations. La classe de voleur, elle vient de Pfaffer et du souricier gris. Et c'est une ville, elle avait cette particularité dans sa version Donjons et Dragons, qui était très très bien pensée, c'est-à-dire que dans les nouvelles, ils vont être très jeunes, ils vont donc être dans leur maturité, dans leur force de l'âge, puis après ils vont être déclinants, et donc ils ont fait ces trois états, et ils ont eu une idée, alors que qui est quand même pour moi une fausse bonne idée, ils ont voulu personnaliser la ville. Et si tu tapes l'Ankhmar sur ton parchemin magique, tu vas voir que le plan qui est donné, il y a un plan et il y a des carrés vides. Et ce qu'ils avaient fait, c'était que donc, tu avais ton plan, et dans le supplément, tu avais un petit fascicule qui faisait, je crois, une vingtaine de pages. Et chacune de ces pages était une disposition de quartier qui correspondait à un des carrés qui manquait, mais en fait, quelle que soit la forme dont tu le mettais, ça correspondait. C'était, je sais plus le terme. Ça correspondait quel que soit le sens dans lequel tu le mettais. Et sous ce quartier, ils avaient mis des petites descriptions que c'était à toi de remplir. C'est-à-dire, ils voulaient faire que aucune ville ne se ressemble, que ton Ankhmar n'était pas le Ankhmar de la table d'à côté.
Ah, je vois, parce que j'avais un peu du mal, mais en voyant la carte, effectivement,
voilà.
Oui.
Alors, ce qui fait que si tu veux l'afficher à ton mur, bah, c'est une carte, il y a des trous. Et puis, effectivement, si tu veux vraiment te projeter, bah, il faut que tu aies ce petit fascicule qui est à côté. Donc, ça vient une carte gruyère ou émentale, je sais plus lequel des deux a des trous. Et puis après, ils ont fait un autre supplément où ils ont fait une carte qui était... complètement normal. Et si je voulais en parler, c'est parce que donc, j'ai une affection toute particulière pour cet auteur. Alors, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, puis de toute façon dès que je parle de Lankmar, il faut que je la raconte avec Donjons et Dragons. Donc Fritz Lieber, sur la fin de sa vie, est quelqu'un qui sombre dans l'alcool, qui se remet jamais de la mort de sa femme, et qui était vraiment sans le sou. Et il vivait des royalties que TSR lui payait pour justement l'Ankhmar. Et Chaosium avait contacté Liber pour faire justement une adaptation de Lankmar. Il signe les contrats, mais il ne se rappelle plus du tout. Alors c'était évidemment avant le début de la production. Il ne se rappelait plus du tout qu'il avait déjà, qu'il était sous contrat avec TSR. Donc en fait, il avait vendu deux fois l'autorisation.
Et un peu problématique, ça.
Voilà. Et Greg Stafford, donc qui était Chaosium, Greg Stafford avait été très touché, visiblement, par Liber. Et il savait que c'était... il était dans un tel état qu'il avait complètement oublié qu'il avait signé à côté. Et Stafford savait aussi que TSR allait lui payer beaucoup plus d'argent. Et Stafford a déchiré les contrats. Puis on, et c'est comme ça que Lankmar a continué. Dans Lankmar, il y a eu une dizaine de suppléments. Et où, en fait, il y a eu Lankmar, puis après, il s'éloignait. C'est le monde dans le monde de New One. Donc c'est un monde, c'est un monde qui fonctionne avec Donjons et Dragons. Mais c'est un monde qui n'est pas du tout intégré dedans.
Parce que c'est vrai que tu en parles souvent de Lankmar, où j'ai vu des vidéos que tu avais tournées, parce qu'on n'a pas le temps de regarder nos propres vidéos.
Oui, je confirme.
pour tous en tout cas, à moins qu'on demande une petite opinion sur telle ou telle vidéo. Donc je sais que tu en parles, et à chaque fois, c'est quoi exactement? Et même si je regarde à moitié la vidéo, moi je fais toujours quelque chose à côté, comme nos auditeurs, je suppose.
De toute façon, je referai une vidéo dessus, vraiment. Parce que j'ai fait une vidéo sur Lankmar, roman et jeu. Mais comme j'ai récupéré la version DCC de Lankmar, je vais vraiment en refaire une. Et j'ai récupéré, parce qu'avant je n'avais que le premier supplément Lankmar. Et j'ai récupéré la boîte. Ils ont refait une boîte qui se voulait justement avec la carte, cette fois normale. Et puis où on pouvait jouer très très rapidement et très très vite.
Parce que moi, quand tu nies Lankmar comme ça, avec les informations que j'avais, c'était vraiment la ville plus pour les illustrations de ces personnages, vraiment voleurs, un peu noirs,
peut-être
low fantasy, ce genre de choses.
Alors oui, c'est assez low fantasy. Enfin, en fait, c'est de la sword and sorcery. Fritz Lieber, c'est lui qui invente le terme, sword and sorcery. C'est lui qui l'a inventé, le terme. Et la magie dans Lankmar, c'est... faut faire gaffe, quoi. Comme dans la sword and sorcery, c'est-à-dire qu'elle peut elle peut se retourner vite contre toi. Il y a finalement assez peu de magie. Il y a des petits dieux un peu minables qui tentent de d'influencer les vies de Fafeur et du Souricier Gris. T'as également des créatures. Alors c'est très très humano-centré, vraiment très humano-centré. T'as des hommes rats. T'as des ghouls. Alors les ghouls, elles ont la peau invisible. C'est-à-dire que tu vois tout ce qu'il y a derrière, mais la peau est invisible. Donc tu vois en fait leurs organes et tout ça. Et donc c'est une série, à chaque fois c'est que des nouvelles, et c'est des nouvelles qui montrent aussi des héros qui sont pas, c'est pas des rigolos, c'est pas des chaotiques bons, enfin si, il y a du chaotique bon, mais parfois dans la colère ça va plutôt chaotique mauvais. Il y a la fameuse première nouvelle, en fait il se venge auprès de la guilde des assassins. Ils foutent le feu à la guilde et puis ils tuent tout ce qui bouge, ils tuent un gamin de 14 ans quoi. Et puis à la fin, ils font « Oh, je regrette un peu quand même ». Voilà.
On n'est pas sur Chevalier Blanc, quoi.
C'est ça. C'est que c'est pas les enfants de cœur. Et quand tu lis de toute façon Lankmar, tu vois toute l'influence que ça a pu avoir sur Donjons et Dragons. Ça, c'est très, très clair. Beaucoup parlent de Tolkien, mais Fritz Lieber a une influence qui est non négligeable, et moi j'aurais tendance à la placer quasiment à la même hauteur que Tolkien. Puis au moins l'avantage c'est qu'ils n'ont pas eu de procès avec Tolkien.
Ah voilà, ça me fera une petite lecture. Il faudrait que je m'aventure sur les terres de Lankmar de mon côté.
Oui, je t'en reparlerai. Ce qu'il faut, il faut les acheter en occasion. Il faut que tu achètes, ça je le dis toujours, il faut que tu achètes les versions Press Pocket que tu trouves à pas cher du tout. Dans un peu partout. Ne faut surtout pas acheter la version Brajlon, qui est la version Jean-Claude Mallet en traduction, et donc la version intégrale livre de poche qui reprend la version Brajlon. Et d'ailleurs, pour te le dire, comme tu sais, on reçoit les bouquins de livre de poche, j'avais. Je ne savais pas qui l'avait traduit, et donc je reçois le bouquin, je retire le blister et je vois qu'ils ont repris la traduction Brajlon. Et là, j'ai écrit à notre contact livre de poche. Et je dis, bon, voilà, écoutez, j'ai un énorme problème. C'est que je peux pas dire du bien de cette version. C'est une catastrophe. Il y a des phrases en moins. Il y a des phrases qui ont été détournées. Il y a des phrases qui ont été modifiées. Des phrases qui ont été réécrites. Enfin, c'est un désastre sur pattes. Et donc, elle m'a dit, attendez, ben, je vais contacter. Voilà, elle est allée contacter la. Donc, c'était la responsable presse au-dessus. Puis après, ben, j'ai dit, écoutez, bon, ce que je fais, je signale que c'est paru. Mais de toute façon, j'ai déjà dit avant dans plein d'émissions qu'il faut surtout pas qu'il faut fuir cette édition. Donc je l'ai montré et puis voilà. Et puis donc il faut aller effectivement chercher donc ces vieilles traductions qui sont pas non plus exemplaires, mais
je les trouverai en anglais.
Tu peux les trouver en anglais très pratiquement. Et surtout, c'est que Liber, c'est un auteur qui a tendance à, enfin, il tombe dans l'oubli. Hein, c'est Il n'y a pas eu de série sur lui, il n'y a rien du tout. Oui. Alors que ça ferait une super série télé, justement.
Alors, Amazon, si vous nous écoutez.
Voilà, si vous n'avez pas quoi faire, si vous avez trop d'argent. Non. Et alors, pourquoi aussi je voulais en parler, c'est que cette ville, elle sort en 85. Donc, c'était quasiment parmi les toutes premières villes vraiment à sortir. Et est-ce que les coffrets et les grosses descriptions vont arriver avec. La plupart des villes arrivent de toute façon 87-88. C'est-à-dire que tu vas avoir la boîte, on passe à la deuxième édition, et tu as la boîte Royaumes Oubliés. Quoi. Et dedans,
encore
ça
une fois, j'étais pas né.
Ah oui, ben moi je me rappelle de ça. Alors moi j'adorais le cycle des épées, donc j'ai encore ce que je l'avais acheté supplément à Paris, je me rappelle, à Games in Blue, un magasin qui n'existe plus, bien entendu. Mais j'étais pas à fond dans Donjon, j'étais à. Voilà, c'était dans le cycle des épées que j'étais. Et après, donc, tu vas avoir, donc, comme je te disais, deux boîtes. Hein. Il y a une boîte pour City System, et puis tu vas avoir une boîte carrément assez épaisse, la boîte Waterdeep. Et puis, bah, dans les Royaumes Oubliés, tu vas pas avoir tant de choses que ça en plus.
Et au niveau des villes, elles étaient déjà beaucoup détaillées ou c'était dans ces boîtes-là de.
Mais comme toujours, elles vont évoluer. Hein.
C'était quoi? C'était une page, un paragraphe?
Alors, donc, oui, dans la boîte, oui, c'était. Bah, tu sais, on avait vu la semaine dernière Baldur's Gate, c'était une page. Neverwinter, ça faisait pas beaucoup plus. Et alors, ce qui est. Super intéressant aussi, c'est que donc tu vas, t'as les fameux guides volo et tu vois là le guide volo là, on l'entend, il est à côté de moi, c'est 93 et dedans. Alors déjà, ce qui était intéressant là, j'ai le guide du Nord et c'est dans le guide du Nord que tu vas trouver Neverwinter et les premières vraies descriptions, ça va être dans les guides volo et ensuite tu vas te retrouver sauf bien entendu hein, et encore une fois, on vous rappelle. Hein, c'est une discussion, il y a ce qu'on appelle très certainement à certains moments des honest mistakes, c'est-à-dire que voilà des histoires, des erreurs, des erreurs d'étourderie et autres. Et donc tu as eu les guides et puis après donc tu as eu les différentes boîtes qui sont sorties. Elles sont trop loin là de là où on parle. Elles doivent être. Sont derrière ce grand sage de Neverwinter, donc pour que je puisse les montrer, mais parce que de toute façon l'emphase était jamais mise sur les villes, l'emphase était mise sur les campagnes, et puis parce que bah, encore une fois une ville tu vas pas pouvoir aller massacrer beaucoup et à l'époque hein, tu montais avec les points d'expérience. Hein.
Oui, bah, de toute façon je pense que le fait est qu'on évolue plus maintenant peut-être sur des aventures en ville, enfin le peu qu'on a pour l'instant qui sont officielles. Mais quand je regarde, il y a quand même certaines campagnes qui ont vraiment leur focus sur jouer en ville, dans un centre ou une seule ville, tu sais, une méga-cité ou ce genre de choses, comme pourrait l'être Waterdeep, et d'avoir quasiment toute ta campagne là-dessus. Donc tu as quand même une demande ou une envie de certains joueurs de jouer de cette façon-là, et justement plus de jouer un peu à l'ancienne porte monstre trésor, c'est que t'es là, tu veux développer un jeu en ville avec les guildes, de la politique.
Ouais. Mais quand même, alors tiens, là, je viens de revoir sur mon parchemin, donc j'avais raison. Hein. Donc 94, c'est la boîte City of Splendors qui sort, donc c'est la boîte Waterdeep, et donc on était un petit peu avant pour le guide donc de Volo, et justement ils ont ils ont juste cette fameuse boîte. Donc il y a eu un Waterdeep and the North et qui a repris en fait tout le matériel qui était dedans et qui a repris aussi ce qu'il y avait dans le fameux City System dont je te parlais. Et le City System, il datait de 88. Donc tu vois, finalement, le City System, il datait de... Il faudra que je le montre. Je pense que je ferai une petite capsule.
Ouais,
une capsule de complément. Et il y a quand même, tu disais, oui, on peut faire des interactions et tout ça, mais il y a quand même dans les villes tout le temps un endroit où tu peux aller bastonner. Parce que tu prends Waterdeep, tu vas dans la taverne du portail béant, tu descends, allez, ça te fait ton donjon, tu vas aller exploser tout ce que tu veux. T'as toujours. Et par exemple, la ville de Laelite qui avait été faite par Cassius Belli, t'avais ce qu'on appelait le cloaque. Et c'est pareil, c'était un endroit souterrain, tu pouvais aller exploser tout ce que tu voulais. Ce qui d'ailleurs en dit long, je trouve, sur ces villes, parce qu'en fait, finalement, tu dis que c'est des villes ultra dangereuses. C'est que faut pas emmener les enfants tard le soir parce que t'as peut-être des créatures qui vont sortir.
Oui, bah c'est pas pour rien que tu as déjà des gardes hein, pour assurer la sécurité des gens, mais aussi dans toute grosse ville qui se respecte, va y avoir forcément tes guildes d'assassins, les guildes de voleurs ou coalitions ou autres, et même forcément les villes, comme tu le disais, tu parlais de souterrain, la majorité des villes, si tu prends un exemple concret des villes en réel, ont été bâtis sur d'autres villes. Et donc, tu as forcément toujours des souterrains, des catacombes à explorer ou des choses qui vont s'ouvrir magiquement en mode « c'était là depuis des siècles ».
Oui, et donc tu vois, c'est comme s'ils avaient quelque part peur de dire « oh là là, s'il n'y a que de la discussion, ça va être ça va pas être terrible ». Et bien là, non, justement, ils se disent « bon, ben, on va mettre un petit aspect où on va pouvoir s'amuser. Et c'est vrai qu'on va avoir très rapidement quand même cette espèce de course avec les trois grandes villes. Donc Waterdeep, Neverwinter et puis Baldur's Gate. On en a déjà parlé pour Baldur's Gate. Mais donc Neverwinter, il y a le jeu, le MMORPG qui a été dessus, qui existe encore d'ailleurs, et qui est gratuit pour y jouer.
Il y a toujours des mises à jour là récemment. Chaque annonce, ça m'étonne de le voir toujours vivant là. Je me demande s'il est maintenu sous respirateur ou il y a vraiment beaucoup de gens qui
sont. J'ai un copain qui a joué pendant très très longtemps à DDO, donc Donjons et Dragons Online. Et il me disait que sur la fin, je me balade, j'étais tout seul.
Ah bah oui, c'est ça.
Pour faire les quêtes, il n'y avait pas grand monde. Et tu as donc ces fameux guides volo qui sont vraiment des mines. Et on voit donc encore une fois, comme je te disais, les évolutions. Et je pense qu'il y a une ville qui a rarement été autant modifiée, enfin qui a rarement été autant eu de changements que Neverwinter. Parce que, alors Neverwinter, c'est une ville, elle ressemble un peu à Pac-Man, vu de haut, vu qu'elle est donc sur la rivière. Et puis elle a un gouffre, le Chasm. Qui est sur la partie sud-est, et c'est parce que le volcan était rentré en éruption et ça a ouvert une partie de la ville. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu plein de monstres qui sont sortis. La ville a été à moitié rasée. Elle a été victime de la mâche peste, et la mâche peste, c'est le fameux changement d'édition de Dungeons & Dragons, passe de la 3 à la 4. Et là, dans la cinquième, ce qui est super drôle, c'est qu'ils mettent... le gouffre a été refermé. En quatre lignes. Tu dis, bon, allez, vous oubliez tout ça, maintenant c'est une ville normale, quoi.
Quand j'ai fait un peu les recherches pour l'épisode ici, j'étais tombé sur une vidéo de Ed Greenwood qui parlait justement de Neverwinter et de ses quelques secrets. Je vous les dévoilerai pas, hein, vous inquiétez pas. Je vous laisserai aller voir la vidéo vous-même. Et il expliquait qu'ils avaient vraiment fait un effort pour refermer la faille, qu'on la voyait plus, que c'était vraiment en part avec l'ingéniosité des gens qui habitaient la ville et la volonté du lord de la ville de faire en sorte qu'on ne la voit plus, quoi. Donc c'est pas juste on l'a oublié, on l'a effacé comme ça, non, il y a vraiment un effort entre guillemets des citoyens et de la population que pour faire en sorte de faire disparaître ces choses moches au final qui scindaient la ville.
Et on le voit bien parce que les cartes que tu peux trouver sur... Alors c'est assez intéressant parce que À ma connaissance, hein, la seule carte qui était sortie de Neverwinter en 5E, c'était celle donc, de la Côte des Épées. Mais c'est pas du tout la carte que tu peux trouver sur, sur les internets. Hein. Et c'est une carte qui fait plus penser d'ailleurs à un truc 4ème édition, quelque chose de la 5ème. Mais j'ai trouvé donc sur nos parchemins magiques, j'ai trouvé donc des plans de Waterdeep, tu sais, qui sont très, tu sais, avec cette carte, avec les forêts très vertes, et puis les cartes classiques 5ème édition qu'on connaît. Et donc on voit bien que le gouffre n'est plus un gouffre. Quand tu regardes dans les anciennes éditions, tu vois bien qu'ils ont dessiné comme ils ont mis quelque chose de foncé au milieu. Là, tu as l'impression que c'est une espèce de grand terrain vague entre différentes maisons. Et puis il y a parfois des mouvements parce que le seigneur actuel de Neverwinter, c'est l'ancien seigneur de Waterdeep qui s'est barré avec visiblement pas mal des caisses du trésor. Donc c'est Dagult Neverhumber, dont on trouve le fils comme personnage principal dans Waterdeep, le vol des dragons, et justement l'argent qui a disparu. On se demande si c'est pas lui également. Et donc Dagult, lui, il est remonté, donc il est allé à Neverwinter, et puis tout va bien pour lui.
Ça aussi, hein, ça fait un peu partie de tout ce qui est sympathique dans les villes. T'as les trahisons. Les gens qui partent avec la caisse. Et c'est là, ils ont peut-être pas de pouvoir, ils sont pas aussi badass que toi, mais ils ont pris la caisse, ils t'ont entubé.
et là aussi, c'est une des forces quand même de Donjons & Dragons, parce que ça s'est pas vécu dans un scénario, là, ce que je viens de raconter.
Oui.
Mais t'as des tonnes de romans. Alors, quand je dis des tonnes, c'est pas vrai. Mais tu as eu. Il y a eu plusieurs romans Waterdeep. Greenwood a fait d'ailleurs une série de. Je crois que c'est une demi-douzaine de romans qui s'appelle Ed Greenwood Présente, pardon. Et c'est Waterdeep. Et dedans, d'ailleurs, tu as l'histoire de. Parce que la ville de Waterdeep, t'as les seigneurs de la ville, ils ont tous un masque. Je trouve que c'est une super belle idée.
Oui.
Ils ont tous un masque et ils savent pas qui est seigneur. Et donc le seigneur, ça peut très bien être un pauvre aubergiste, voire un mendiant, ou ça peut être quelqu'un, un grand seigneur. Et t'as un des romans où tu as des seigneurs qui commencent à être assassinés et on sait pas ce qui se passe, et donc il y a des tensions sur le haut pouvoir. Et pour revenir sur Neverwinter, comme je te disais, c'est surtout c'est la 4ème édition qui va lui donner quelques lettres de noblesse. Alors je sais plus si c'était du fait du jeu, je sais plus, mais il y a un setting de campagne Neverwinter qui a été fait, et c'est là aussi tu te dis que dis donc, ça arrive tard quoi, ça arrive à une 4ème édition.
Oui, bah après ça dépend tous les efforts de quel milieu, ville t'as envie de mettre en avant, hein. Par exemple ici, combien de temps on n'a pas dû attendre en 5ème édition d'avoir quelque chose autre que du Royaume oublié, et ça malgré les fans qui demandaient depuis des années. Donc c'est pour dire.
Sans, tu sais, ils ont beau dire faites votre propre continuité, enfin, c'est le truc, c'est qu'en fait Wizard il propose d'autres univers, mais c'est des univers qui tiennent sur deux pages, et tu sais que tu les reverras plus jamais quoi. Donc c'est je trouve ça assez assez étonnant quoi.
Et tandis que d'aller vraiment sur un livre complet qui te détaille une ville et ses alentours, hein, je suppose, et te propose des pistes ludiques ou de scénarios, là aussi, hein, je suppose, mais en général, on connaît les formats des bouquins D&D, surtout dans la 4ème édition, il y avait plein de tableaux de tous les côtés pour te donner des idées. C'est qu'à ce moment-là, ça te permettait de créer toutes tes aventures, toute ta campagne là-dessus, et ça a salué. Parce que ça te permet vraiment d'avoir le jeu en ville à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Et souvent, ce jeu en ville, il était. Quand il te le proposait, c'était. Je reprends le cas encore une fois de Neverwinter, c'était. Tu n'avais pas de choses dédiées. C'était. Tiens, on va décrire une région, et dans la région, on va mettre la ville. Mm. Et puis, évidemment, après, ça va. Les choses vont beaucoup évoluer avec ce fameux. Ce fameux livre de campagne, Neverwinter. Toi, t'as pas mal vu des trucs. T'as vu des trucs sur Waterdeep, je crois. Hein.
Oui, bah, je me suis un peu renseigné sur Waterdeep de mon côté. Donc, comme tu le disais, il y avait cette histoire de Lord, tout d'abord, hein, qui sont inconnus. Hein, c'est assez, c'est assez sympathique. D'ailleurs, il y avait un jeu de société auquel j'ai joué quelques parties. Je me souviens absolument de rien des règles et tout ça. Mais à la fin, tu devais trouver qui étaient les seigneurs de Waterdeep. Donc, il y a un petit jeu là-dessus.
Ah, mais oui, j'ai vu. Ah, d'accord.
Okay. Et ils sont encore sympathiques, donc je le recommande si vous le trouvez à pas cher et qui peut remplacer voilà, y a un joueur qui est absent, la partie au lieu d'annuler complètement la partie, vous sortez
voilà.
ce jeu de société là, ça suffit à égayer la soirée. Mais oui, donc il y a ça aussi, et comme tu disais, ça fournit quand même une identité aux villes, et c'est ça qui est important, je trouve, dans D&D, c'est qu'ils ont donné une identité aux villes. Et plus d'une façon, c'est-à-dire que quand tu parles du gouvernement, ça aussi, ça va dicter un peu la représentation que tu vas avoir de la ville, des dirigeants, mais aussi une des choses connues de Waterdeep, c'est la garde de Waterdeep qui porte un uniforme, ils sont clean, ils respectent la loi et te mettent une amende parce que tu es en infraction et ils accepteront pas de pot de vin. Bon. Hein, jusque là, je pense que
ben, c'est ce qui est écrit dans le guide du parfait garde. Après,
oui, voilà. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une exception ou d'un bon jet de dés. Hein, d'un bon jet de dés, ça aussi. Et d'avoir tout cela, et aussi quand tu prends en compte les éventuellement les défenses d'une ville, ça c'est aussi. Donc à Waterdeep, je sais plus si c'est Waterdeep ou Neverwinter, où ils ont les géants. Je pense que c'est Waterdeep.
Ah non,
hein,
oui, c'est Waterdeep. Puis là aussi, c'est des géants, il faudrait que je revoie, mais quand tu regardes les premières descriptions, même dans la fameuse boîte de 94, il n'y avait pas les géants. Les géants,
mais c'est plutôt colosses.
Voilà, c'est des colosses qui sont arrivés, et on raconte qu'ils étaient là pour sauver les habitants de Waterdeep. Alors, pour décrire, hein, pour ceux qui connaissent pas, si vous imaginez une ville et vous en avez, je crois que c'est 6.
8, je pense.
8, de Waterdeep. Ouais, oui, parce qu'il y en a un qui est apparu en plus. Et c'est. Alors vous avez le chevalier, c'est des statues qui font 30 mètres.
Oui. Imaginez le Cause de Rhodes, Lady Liberté, tout ça.
Voilà, ou le dessin animé, le truc des titans, mais sauf qu'il bouge plus. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Enfin, quand on fera l'émission sur Waterdeep, on pourra en parler. Mais moi, quand j'ai joué le Vol du Dragon, qui était aussi une suite conclusion de Maze of the Blue Medusa, je n'arrêtais pas à chaque fois que je décrivais les géants. Je disais, les géants qui vous surveillent. Et au bout d'un moment, ils étaient là. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc.
Mais ça aussi, tu vois, quand t'as des colosses dans la ville, tu les vois de loin. T'es là, ça t'inspire quelque chose. Hein,
parce que si Neverwinter est peut-être la ville qui a le plus changé, puis qui a été au centre de pas mal de choses, Waterdeep, hein, ça se pose là. Alors, déjà, ça a changé parce que c'est une ville qui est devenue très Da Vinci punk, comme on veut. Enfin, donc, il y a beaucoup de. Enfin, comme cette nouvelle édition, de toute façon. Et, mais aussi, c'est. Faut voir quand même que lorsqu'il y a eu la grande guerre des dieux, ça s'est passé à Waterdeep, c'est-à-dire qu'il y a le mont Waterdeep, les habitants, ils ont vu l'ascension de je sais plus quel héros au statut de dieu, quoi. Enfin, ça va, c'est des choses que tu peux raconter à tes petits-enfants sans aucun problème.
Et aussi un truc qui choque pas mal, enfin choque, en tout cas tu le vois directement quand tu as un plan de Waterdeep sur les yeux, c'est la limitation des quartiers, limitation et agencement des maisons et tout ça, c'est droit, c'est à la New York, hein, je l'avais dit pour l'épisode de Baldur's Gate, et je me suis renseigné un peu, c'est voulu dans le monde, et que tu veux bâtir ta maison ou reconstruire ta maison ou ton atelier, tu dois respecter exactement les mêmes proportions qu'il y a sur le plan, quoi. C'est vraiment une autorisation de la ville, c'est droit, c'est strict, c'est droit, ça bougera pas. Donc...
et justement, moi, c'est quelque chose qui m'avait surpris, et très agréablement surpris d'ailleurs, au niveau de au niveau de Waterdeep sur cette 5e, c'était donc, bon, ça je le dis très très souvent, c'est donc on perd le côté complètement médiéval, mais on a effectivement, enfin, c'est tellement droit que t'as un tramway quand même. T'as un tramway qui va, t'as deux artères principales et t'as le tramway qui passe. Et là, tu pouvais pas le faire dans toutes les villes, hein, sinon il aurait fallu pas mal de virages.
Ah, okay. Ça fait beaucoup de zigzags, hein. Ouais. Surtout si tu passes de la grande rue à un petit truc, t'es là, le tram, il passera dans votre maison, monsieur.
et c'est une ville qui a été, t'as des sites wiki qui existent. Oui. Les nombres de familles nobles, c'est monstrueux, mais c'est vraiment monstrueux.
Le nombre de guildes aussi qu'il y a,
les guildes, voilà, et, tout à fait. Et tu as après. Des quartiers. Alors, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que tu as des quartiers qui étaient des quartiers à l'extérieur de la ville dont on ne parlait pas et qui se sont retrouvés intégrés, notamment, je pense, notamment au nord de la ville. Donc, tu prends les premiers plans, tu vois la ville, bah, tu dis que tu as un quartier qui était où on laissait les personnes, il y avait tous les laissés pour compte. Mais en fait, ce quartier a été intégré. Est décrit dans les éditions supérieures. Donc la ville là aussi change un petit peu, comme Baldur's Gate a pu évoluer. Puis il y a eu donc l'influence des romans, mais j'ai trouvé moi des endroits, enfin des descriptions superbes. Notamment tu as le grand cimetière de Waterdeep, et la nuit tu as des sphères flottantes avec des sorts de lumière éternelle dessus qui convergent de toute la ville vers le cimetière. Et ça, visuellement, c'est magnifique à décrire.
Ouais, et aussi, Waterdeep, comme il te l'a décrit, c'est qu'il y a vraiment des districts ou des choses... Tu n'aurais pas forcément pensé, comme le cimetière ici, et qui rendent une ville, ce que fait une ville. Parce que, bien sûr, quand tu as une ville... que ça fait des siècles que ça existe, tu vas retrouver des mausolées, tu vas retrouver ce genre de choses. Et à première vue, quand tu crées ta ville de ton côté, tu n'y penses pas forcément à ce genre de choses.
Mmh. Bah c'est, de toute façon, c'est le bébé d'Ed Greenwood. Hein. C'est le bébé, comme je te disais, avec tous les romans qu'il a pu avoir. Les grandes... D'ailleurs, c'est très compliqué. Hein. C'est compliqué quand tu veux lire quand tu lis l'histoire de Waterdeep. Voilà, il y a tellement de sources... que bon, ça tu regardes quand même à deux fois. Une des choses aussi, c'est que t'as la fameuse auberge du portail béant avec ces fameux PNJ comme Mistre, et c'est et tout au cœur donc de Waterdeep, tu vas trouver, enfin tout au cœur, non, dans les entrailles de Waterdeep qui est sur une falaise. Alors là aussi, quand tu prends les différentes cartes au fur et à mesure des éditions, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Tu te retrouves avec évidemment l'Empire du Crime de Xanatar, notre brave Beholder, et qui amène donc voilà ces deux couches qui sont très très différentes au niveau des ambiances, deux univers, deux ambiances.
Et aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont développé jusqu'à te dire, bah bien sûr, Waterdeep, elle est connue pour être la ville du commerce, la cité des splendeurs, parce que il y a beaucoup d'argent, beaucoup de commerce, mais aussi tu as une grosse part de festivals qui vont se retrouver là, et la nourriture. La nourriture est vraiment importante, et tu as même des compétitions, des recettes spéciales, ce genre de choses.
Bah, tu le vois aussi, parce que, encore une fois, on rejoint l'importance qu'a Waterdeep dedans, donc on s'arrangera pour aller plus en détail. On reprendra peut-être certaines choses de ce qu'on dit, mais il y en aura encore plus. C'est que les fameux guides de volo, bien donc,
ils parlent de la nourriture.
Oui, parce que c'est ça, parce qu'en fait, tous les guides sont des guides qui sont en comme sorte de guide touristique, parce que dedans, il y a même Elminster qui de temps en temps rajoute des notes, et tu as des restaurants et tout ça. Et Waterdeep, alors que par exemple tu avais le guide de volo du nord, tu avais le guide de volo de la côte des épées, le guide de volo de Cormyr, eh bien le seul guide de volo qui n'est pas sur... alors tu as eu le fameux guide de volo de Baldur's Gate, mais lui il compte pas vraiment parce que c'était... déjà parce que c'était pas Baldur's Gate, mais c'était pour le jeu vidéo, mais tu as un guide de volo intégralement fait pour Waterdeep. Et dedans tu as donc effectivement tous les restaurants et puis là où on mange bien. Et c'est pour ça que tu as tous les festivals et ça te donne une ambiance qui est un petit peu... Enfin, qui est différente. Il faut savoir que les trois grandes villes hein, ont des alliances, hein, que ce soit Baldur's, Waterdeep et puis Neverwinter. Ils ont réussi à bien les séparer. Waterdeep, t'as envie d'y vivre. Baldur's Gate, pas trop, quoi. tu sens ça et ça, je trouve que ça permet de donner une espèce de tension, mais dans le bon sens du terme. De tensions et de rapports qui peuvent vraiment être importants entre ces trois villes.
Oui, tout à fait. C'est aussi ça qui est important quand tu donnes l'identité de ta ville. Le rapport, quand tu vas arriver là, le rapport des citoyens par rapport aux lois établies, s'il fait bon vivre, si toi-même tu as envie d'y vivre. Parce que c'est ça aussi quand tu joues avec des villes sur le côté. C'est que tu as peut-être ta base où tu as acheté une maison et tu reviens tous les X temps entre les aventures sans forcément y jouer, mais ça te fait toujours plaisir de passer un petit temps dans ta ville où si ta ville est menacée, tu te sens plus enclin à vouloir aller la défendre ou résoudre une situation que oui, non, c'est à Waterdeep, ouais, je suis passé une fois pour un festival, je me suis bien bourré la gueule, mais sans plus quoi.
C'est surtout qu'avec ces statues. Là, pour le coup, t'as vraiment un truc de splendeur. Enfin, t'as un truc, tu regardes, tu fais waouh, parce que en plus c'est des statues, c'est pas des sculpteurs qui l'ont fait. Il y a des créatures qui sont affaissées. Enfin, il y a une histoire derrière ça. Il y a visuellement, c'est très fort. Et d'ailleurs, je pensais que le film Donjons et Dragons se serait amusé à utiliser Waterdeep, mais ils ont utilisé Neverwinter à la place. Ils ont utilisé Neverwinter avec tout ce que ça peut amener de raccourcis, mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais là, je trouve vraiment que Waterdeep, c'est la ville qui a le plus de, enfin qui frappe le plus, parce qu'aussi, bien entendu, c'est la ville qui est la ville chouchou, la ville chérie sur les trois, bien entendu, sur les trois hein, que l'on connaît. Aussi bien et que bah, c'est comme si il s'était dit bon de toute façon Neverwinter et Baldur's Gate il y a tellement de déclinaisons à côté à savoir celle des jeux vidéo bah, oui. Autant nous éclater nous sur Waterdeep et voir ce que ça peut arriver ce que ça peut donner
oui et à côté aussi de se dire que Waterdeep étant donné sa culture et tout ça a de la diversité même dans les autres éditions et elle était connue comme étant aussi une ville diverse et forcément si tu as des personnages qui veulent jouer des races un peu exotiques ils vont dire oui j'habite à Waterdeep ou je suis passé par là ou ils ont beaucoup plus de sens d'avoir un lien avec cette ville que de se dire ou même ça te fait plaisir imaginons tu joues un Dragonborn. Les Dragonborn, normalement, ils ne sont pas censés se trouver à droite et à gauche, bien que, hein, quand on voit la composition des joueurs, tu retrouves souvent des Dragonborn. Oh, hein, voilà. On aime bien jouer des dragons. Mais de retrouver éventuellement dans Waterdeep des espèces, un clan, ou même toute une construction d'une société Dragonborn qui aurait pu se retrouver là, ou pareil pour les Firbolg, toutes les espèces un peu exotiques forcément, que tu vas retrouver, et qui vivent dans un équilibre aussi, c'est ça qui est important de dire, hein, c'est que, toutes les espèces humaines se retrouvent d'un côté, et puis toutes les espèces un peu exotiques, voilà, ils sont enfermés dans les gâteaux, non, c'est pas le cas, à moins que il y a peut-être une évolution, ça, on verra peut-être quand on explorera vachement plus l'historique de Waterdeep. Mais c'est ça de se dire qu'il y a beaucoup plus de choses à voir, à faire et à explorer globalement dans Waterdeep, rien que la ville et toutes les opportunités qu'elle peut avoir pour démarrer une campagne, un scénario et que sais-je.
Bah, tout à fait. Et puis, surtout, c'est quand tu m'as parlé là, du grand nombre de races qu'il faut y avoir. Il y a un truc qui m'avait fait vraiment rigoler parce que j'avais trouvé ça pas très inspiré. C'est dans le vol des dragons, donc Waterdeep, tout commence qu'il y a il y a une boule de feu qui tirait et dedans il y a quelqu'un qui s'échappe et tout ça. Et à un moment ils disent oui, vous pouvez des traces au niveau du mur. Et puis ils mettent c'est à hauteur de gnome à genoux.
Oui.
Et là tu te dis mais comment tu fais pour te dire que c'est à telle hauteur? Et tu dis oui, on dirait un gnome à genoux, et pourquoi tu penserais pas à une autre espèce qui serait peut-être plus grande? Enfin, j'étais là, je suis okay, un gnome à genoux, pas mal comme unité de mesure. Et c'est aussi un, je trouve là aussi un côté très lumineux qui correspond beaucoup à cette cinquième édition, et je pensais que c'est pas du tout étonnant qu'ils aient choisi la ville avec tous ces côtés très lumineux justement. Pour être mis en avant, parce que donc des villes on l'a bien vu, hein, Baldur's Gate, ça fait l'aventure elle se passe pas à Baldur's Gate, enfin Descente en Avernus c'est pas le cas, et des villes comme ça là en elles-mêmes en tant que supplément ça n'existe pas dans cette formule 5e E. Ou de toute façon,
t'as vaguement qu'un Dunkeep où tu pourrais dire oui. Mais bon, c'est pas, on est loin d'un Neverwinter 4ème édition.
Voilà, parce que leur formule, c'est très clairement, on décrit un endroit et puis on fait jouer. Enfin, c'est même pas, on décrit un endroit et on fait jouer, parce que souvent, ce qu'ils décrivent n'est pas forcément réutilisé dans le scénario. C'est comme ça, ils font pas de... Avant, il y avait des suppléments de contexte. Et dans cette cinquième édition, il n'y a plus de suppléments de... Il y a des suppléments, ce qu'ils appellent de référence. Mais on essaye quand même à chaque fois de dire, tiens, on va mettre quelque chose à jouer. Mais c'est sûr que les... J'aimerais qu'on ait une nouvelle ville.
Ouais.
Parce que dans les royaumes oubliés, il y a plein de villes qui n'ont pas été décrites, il y a plein de villes, c'est juste un nom, quoi. Et oui, j'aimerais justement qu'il y ait une nouvelle ville et que ça relance d'autres intrigues. Bon. Quand on fera notre émission sur le futur de Donjons & Dragons, peut-être qu'on en parlera, mais... De toute façon, ils ont tout liquidé. Ils ont tout liquidé sauf Dark Sun, et ils ont dit qu'ils ne feraient pas Dark Sun. Il y a... Planescape qui arrive, donc là après c'est ce qui va pas nous faire Birthright.
Mais à côté de ça, ça permet aussi d'ouvrir un peu sur la discussion de quand tu crées toi tes propres villes aussi, c'est de les donner leur identité un peu spécifique, ou éventuellement ici, les trois qu'on vient de vous citer, c'est un peu des cités-états. Donc les cités-états, c'est aussi particulier parce que quand tu joues en général dans ton monde médiéval fantastique, tu as les royaumes, et dans les royaumes, les dirigeants c'est les rois, et t'as toutes les villes qui sont censées plus ou moins correspondre, t'as même système de légalité, le même enfin, les impôts, tout ça c'est tout payé pareil dans le même pays, tandis que quand tu es plus sur des cités-états, c'est là que, une fois que tu rentres dans la cité de ses environs, tu as un autre type de loi éventuellement et une autre ambiance. Moi je prends l'exemple d'une cité que j'avais créée, c'était une cité qui pour un point magique, voilà, genre le sommet d'une montagne, et c'était cité vraiment des magiciens, et si tu n'étais pas magicien, tu étais traité comme une sous-espèce. C'est-à-dire que mes joueurs, ils étaient arrivés là, le barbare, il arrive, enfin les barbares, guerriers, tout ça, et on leur fait, vous pouvez dire à vos animaux de la fermer, on va vous... et ils s'adressaient que à ceux qui avaient un visuel de joueur magique, et à tel point que quand j'avais créé ça, dans les lois, tuer quelqu'un qui n'était pas un utilisateur de magie, bah c'est rien, c'est comme si tu avais tué une mouche.
Ah bah oui, effectivement, c'est ça aussi qui est la force de des royaumes oubliés, puis de Donjons et Dragons à fortiori, c'est que comme tu peux tout inventer et tu peux créer effectivement tout ce que tu veux avec les us et coutumes qui vont complètement changer, et que quand tu seras sur certaines villes très évoluées, tu auras juridiquement ça va être assez béton, et puis après bah, quand t'en as que tu fais on dira que les législateurs se sont levés du mauvais du mauvais pied quand même. Et oui. Donc c'est voilà ce que sont donc les villes dans Donjons et Dragons. Donc évidemment, on s'est arrêté sur trois villes pour montrer les différentes choses qu'on peut faire. Et on voit, donc, comme on disait, comme pour Baldur's Gate, l'influence extérieure. Et que
oui.
Finalement, ça fait partie de ce seul pan du jeu qui a été énormément influencé par les jeux vidéo ou les romans. Et, oui. Et qu'on... tout ce qu'on a raconté comme type d'évolution, c'est pas arrivé en jeu de rôle. Hein. Les mésaventures de d'Agult Neverhumber, c'est pas en partie, hein. C'était vraiment à côté.
Oui, et comme vous pouvez voir avec les points qu'on a pu un peu discuter, c'est que pour rendre une ville intéressante et pas faire un copier-coller de c'est une ville médiévale, c'est un château, il y a si bon, vous pouvez le faire, il hein, y a rien de mal à faire cela, mais qu'en donnant quelques petits points à droite et à gauche de personnalité. Personnaliser votre ville, vous pouvez quand même arriver à créer quelque chose. Bon, pas non plus du jour au lendemain, non plus. Hein. Toujours des petits détails quand vos aventuriers arrivent. Ou même, pourquoi pas, créer une campagne où vous bâtissez votre ville. Les aventuriers...
Ouais, j'avais fait hein, cette vidéo sur les villes. Faudrait que je la mette en lien. Et dedans, je proposais sur quoi faire jouer. Et je disais que, effectivement, souvent, on n'est que de passage. Ouais, et puis alors soit on est de passage, soit en fait on commence tout en bas de l'échelle. Et on peut en fait être de passage, mais on peut aussi très bien avoir été engagé par quelqu'un de très haut placé dans la ville, ce qui fait que ça t'ouvre aussi beaucoup d'opportunités. Et moi je terminerai quand même juste par une rue, qui est dans l'Ankhmar, qui a été reprise d'ailleurs je sais plus où, et c'est Waterdeep qui m'empêche de le dire, qui s'appelle la rue des dieux. Dans la rue des dieux, donc elle traverse la ville hein, d'est en ouest. Quand tu es à l'est, c'est tes dieux sont les dieux que tu vénères, c'est rien du tout, tu vois, c'est des masures, c'est une petite cabane, ça c'est ça. Et au fur et à mesure de la popularité de ton dieu, tu vas avancer dans la rue et tu vas te retrouver dans des gigantesques temples et des choses comme ça. Et puis parfois. Ton dieu, et c'est le cas d'une des nouvelles dans le cycle des épées, ton dieu est extraordinaire et puis bah tout va s'effondrer, donc tu vas tout recommencer donc au début. Et j'avais adoré cette idée de la ville mouvante, c'est-à-dire plus un dieu est populaire, plus il va avoir un grand temple. Ainsi donc s'achève notre épisode sur les villes dans Donjons et Dragons. Alors évidemment, on n'a parlé que de trois, on en a parlé que de que des trois, enfin que de deux de Waterdeep, bien entendu. On reviendra dessus, on fera des espèces de projecteurs sur une ville en particulier, parce que ça peut toujours aussi aider en fonction des scénarios que vous voulez faire jouer, même si on déteste hein, tout ce qui est émission où on vous dit tout simplement les secrets d'univers un bête Wikipédia, on veut discuter dessus et on veut justement faire des allers-retours dessus, parce que si c'est de l'information pour de l'information, autant aller le prendre là où on peut et là où chacun peut le prendre. Et puis donc pour la semaine prochaine, tu te rappelles du sujet que l'on devait avoir?
Je pense qu'on ne l'a pas encore décidé, Mathieu, donc ce sera un mystère.
Ça va être un mystère, on aura Octogone, donc on va trouver.
Oui. Et aussi, je vous invite éventuellement à partager dans les commentaires, que ce soit sous les publications du podcast ou quand ce sera retransmis sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse de jouer en ville, quelles sont les opportunités que vous voyez qu'à ces moments-là, qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous arrivez en ville, ce genre de choses. N'hésitez pas.
Et puis aussi, c'est quelle est votre ville préférée? N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, n'oubliez pas, si vous allez rencontrer les statues géantes de Waterdeep, faites bien attention, on raconte que parfois, la nuit, elles se mettent à se retrouver dans certains endroits et à discuter. Donc là, faut pas du tout être en dessous. Je crois que tout est dit. Fabrice, je te dis à la semaine prochaine. J'espère qu'on ne sera pas trop fatigué avec Octogone. Et je te souhaite donc de fort belles nuits dans de fort belles auberges des plus belles villes de Donjons et Dragons.
À la prochaine fois, tout le monde.
À la prochaine fois.